Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, surtout joyeux Noël et bienvenue à bord de ce numéro 626 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Bar à Vin Nicolas Paris, place de la Madeleine, avec, comme d'habitude, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. Appellation Meursault, nous partons en Bourgogne bien sûr. Les recettes pour optimiser la gestion de son parc de barriques, ça c'est un sujet parfait pour aujourd'hui. Le champagne Bilkar Salmon, la fraude dans le vin, la notion de minéralité, la bière fabrique. Et comme chaque week-end, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux. En compagnie d'un quatuor extrêmement féminin, David Cobol, Philippe Forbrax, Nicolas Lippes, et puis Eric Yerivert. Bonjour Eric, hein, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Hein.
Bonjour. Bon, alors ce menu hier soir là, hein, faut digérer, c'était hier soir Philippe Forbrax, qu'est-ce qui s'est passé
hier soir. J'ai encore le goût de la bûche au chocolat.
Ouais, moi aussi.
Dans Fond du Palais avec le vieux Bagnouls qui a accompagné tout ça agréablement,
ouais.
Et qui nous a accompagné longtemps dans la soirée.
Un vieux bagnole, c'est bien ça.
Bien fêter ça pour ce réveillon de Noël.
Avec modération toujours. Et vous, David Cobol, vous étiez où hier soir?
J'étais en Angleterre chez ma mère et on a bu des bulles anglaises pour commencer.
Elles sont comment, les bulles anglaises?
Elles peuvent être remarquables. Très fin, mais on estime que le climat du sud de l'Angleterre, c'est le climat de la Champagne il y a 25 ans, donc il n'y a aucune raison objective pour qu'il ne fasse pas de bonnes bulles.
Et le terroir, vous avez beaucoup de terroir, il est comment?
Ouais, le terroir, on en parlera la semaine prochaine, mais le terroir, il est calcaire, majoritairement, sur le Sussex,
ouais,
le Kent
ça, ça et la Hampshire. Bon, Jacques-Olivier, vous étiez fidèle à Bordeaux, je suppose.
Non, j'étais au Pays Basque, comme de tradition. Pays Basque, la partie française, on a mangé évidemment basque et on a bu des bulles comme chez David, mais aussi un vin que j'avais ramené, un vin canadien de Colombie-Britannique.
Tiens
qui
donc,
répond au doux nom de Clos du Soleil. Excellent, je vous en parlerai. Très très bon.
Très bon.
Très très bon. La Colombie-Britannique est un territoire, une province du Canada qui est en pleine progression sur la production des vins.
Et vous avez zappé l'Iroligui, c'est dommage, parce que c'est les vins
d'hommes. J'en bois souvent de l'Iroligui, j'adore.
Éric Rivert, vous étiez hier soir où ça?
En famille, on a bien mangé avec du gibier, donc j'ai mis un château de Beaucastel.
Ah très bien.
Mais
ça.
Comme Philippe, j'ai fini avec un Bagnols, mais un magnifique, un 1950 du domaine Pietri-Giraud. D'un équilibre magique.
Bon, c'est génial. David Cobol, vous aimez les vins espagnols?
J'aime les vins de partout, dès lors qu'ils sont bons.
Et vous aimez les jolis espagnols aussi?
Bien sûr.
Eh bien, ça tombe bien parce qu'on reçoit la charmante Cristina Forder. Bonjour, Cristina.
Bonjour.
Alors, vous êtes présidente de Marques de Caceres. Alors, un petit mot d'abord. Joyeux Noël, ça s'est bien passé hier soir?
Ça s'est très bien passé. Dîner familial, célébré avec tranquillité, avec des très bons vins et du très bon champagne.
À une heure raisonnable, tout allait bien?
Raisonnable, en Espagne, rien n'est raisonnable. On se couche tard, mais comme toujours.
C'est extraordinaire.
Raison de se coucher encore.
On a l'impression qu'elle s'est pas couchée.
Oui, surtout, on a l'impression qu'en Espagne, il faut réveillon tous les soirs de l'année.
Elle a fait tapas nocturne.
C'est ce qu'on aime.
Alors, Christina, donc vous êtes diplômée de Catch Business School, donc Jacques-Olivier est très content.
Absolument.
Et vous avez débuté votre carrière dans l'immobilier à Paris, c'est ça? Racontez-nous.
Oui. J'ai d'abord commencé dans l'immobilier à Paris. Très bonne école, parce que personne ne m'attendait ici. Marché très compétitif. J'ai commencé avec des prêts à une époque où il fallait payer des intérêts à entre 15 et 17%. Enfin, ça a été la meilleure école pour pouvoir me former. Et je pense que la résistance que j'ai pu mettre à l'épreuve dans cette expérience a peut-être valu à mon père ce souhait de rejoindre la bodega.
Allez,
Henri Yoffin.
C'est votre père qui a créé la bodega dans les années 70, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Il a créé Marques de Cáceres de rien. Donc, il n'y avait rien.
Il n'y avait rien, quoi.
Rien. Donc, ça a été un nouveau projet qui a été créé familial, qui a été créé de toutes pièces et où la famille s'est totalement investie pour le faire vivre.
Bien
et,
sûr. Vous êtes situé où exactement? En Espagne? Et quel type de cépage?
On est en Rioja, donc l'appellation la plus prestigieuse du nord-ouest de l'Espagne et le cépage roi pour les vinifications de rouge.
Je dirais même que c'est l'appellation la plus connue en Espagne. Lorsqu'on avait fait un sondage spontané dans la rue d'Espagne il y a quelques années, bon, citez-moi trois marques et on a eu BMW, Mercedes et Rioja dans cet ordre-là.
Et quand même, oui.
C'est extraordinaire.
Ah oui, c'est l'appellation la plus reconnue.
Ça roule
vite,
et à Rioja, c'est...
On est toujours prêt à faire du 200 à l'heure. Hein,
Et donc les cépages, David Cobol, qu'est-ce qu'on trouve comme cépage en Espagne?
Le cépage roi, c'est la Tempranillo, mais il y a beaucoup de Grenache aussi. Ça dépend un peu des sous-régions, parce qu'il y a le Baja, l'Alter et la Vesa, la partie basque. Mais Tempranillo, il faut mettre ça en avant. Après, il y a les cépages minoritaires.
Philippe Orban, c'est le
grand cépage local.
Tout à fait.
Aussi le Tinto del País, d'ailleurs.
Tinto del Pays, dans d'autres.
Il est inscrit dans les gènes là-bas.
Ah, la génétique. Ouais. Ouais. Oui. Et vous, Philippe, qui êtes le président des sommeliers, notamment de France, mm-hmm. les sommeliers espagnols sont également actifs ou pas?
Ils sont très actifs. Ils font partie de l'association de la sommellerie mondiale depuis pratiquement l'origine avec leurs amis portugais. Alors, ils n'ont pas encore gagné de titres internationaux.
Ça, c'est bizarre, mais ça, non?
Oui, c'est bizarre parce que finalement, l'Espagne, l'Italie, la France, c'est quand même le berceau à la fois de la viticulture, mais également de la
sommellerie. L'Italie a gagné, la France a gagné, l'Italie notamment.
Pas le berceau historique, mais vous devez le savoir.
Quand même. En tout cas, de l'historique de cette partie-là du monde.
Oui.
Ce sont les trois pays actuellement qui produisent le plus de vin dans le monde.
Ça, c'est vrai.
Et c'est à ce titre-là que je fais plutôt référence. Et donc, il serait légitime qu'effectivement, en Espagne, d'autant plus qu'on parle de la gastronomie espagnole.
Bien sûr, excellente.
Qui est au firmament des étoiles et autres. Et la sommellerie également, puisqu'il n'y a pas grand restaurant sans effectivement grande cuisine, mais aussi sans grande sommellerie. Et Dieu sait s'il y a des caves juste extraordinaires.
Oui.
Le Célé de Roca, par exemple, fait partie des légendes en termes de caves et avec des grands sommeliers, mais pas encore en termes de compétition.
Christelle Lafournière, d'ailleurs, on peut visiter votre bodega ou pas?
Oui. Nous, on a commencé un projet de nos tourismes, voilà, maintenant 3 ans.
D'accord. Donc, c'est assez récent quand même. Hein.
C'est assez récent. Et bon, tout tourne autour du vin, bien sûr, parce qu'on ne sait rien faire d'autre. Donc, c'est assez didactique et on essaie de communiquer notre passion du vin et la visite se termine avec une dégustation de 3 vins.
D'une gamme de vos vins, quoi. Vous produisez les 3 couleurs, il y a du blanc, du rouge, du rosé?
Oui, en fait, de produire un blanc, un rouge, un rosé, on produit des gammes. Donc on a la gamme traditionnelle d'un blanc de Viura, cépage de la Rioja, rosé, rouge Crianza et réserve. Et après, on a la grande réserve et on a des vins de sélection parcellaire de très vieilles vignes. Donc c'est les vins de prestige, Gaudium, MC, et la gamme Excellence, qui est en vente en exclusivité dans les caves Nicolas, ici.
D'accord,
en France.
D'accord, partout en France. Quoi. Voilà. Vous avez combien d'hectares au total sur les vignes?
Alors, nous gérons à peu près 700 hectares de vignes.
700 hectares.
À partir desquels on fait des sélections, et ce qui nous amène aussi à vendre pas mal de vin en vrac.
Également, quoi. J'ai que des pèses,
C'est une très belle marque. Un mot sur cette marque et sur les vins espagnols, en plus de ce qui a été dit. Ce qui me plaît beaucoup auprès de Marques de Cáceres, c'est, corrigez-moi si je me trompe, une marque qui a su très rapidement, très tôt dans son histoire, s'exporter, s'exposer à l'international. On la trouve un peu partout dans le monde. C'est assez extraordinaire. Et j'irai même plus loin en disant que vous avez été très visionnaire parce que c'est aujourd'hui une tendance de fond, aujourd'hui des vins qui s'exportent, qui s'échangent sur un plan mondial. Et c'est surtout l'une des caractéristiques du marché espagnol, un peu différemment de la France d'ailleurs, c'est que c'est un marché domestique sur lequel la consommation de vin est un peu en déclin. Donc vous avez eu du nez, si je puis dire, de vous intéresser très tôt au marché international, d'y être présent et de gagner ainsi des parts de marché qui aujourd'hui sont tout à fait importantes.
Christina, je voulais en parler, consommation nationale, en tout cas espagnole, en déclin. Pourquoi? Parce que c'est l'eau ou c'est la bière qui a supplanté le vin?
Je crois que la crise a beaucoup participé au déclin de cette consommation, parce que depuis 2008, l'Espagne a dû s'affronter à une des crises les plus aiguës de son histoire. Et puis ensuite, la bière a profité un peu de ce phénomène. Les jeunes aussi se sont peut-être aussi éloignés de la consommation du vin parce que parfois un vocabulaire complexe. Mmh. Mais en répondant un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, Marques de Cáceres en fait a apporté un nouveau style de vin. Très, très sous l'influence de notre expérience à Bordeaux, puisque nous étions propriétaires de 2 châteaux, Château La Roustrin-Todon et Camassac, dans le Haut-Médoc.
Et lorsque pourquoi c'était vendu? C'était vendu pour quelle raison?
Pour des raisons de fisc.
Ah, le fisc?
Oui, il faut payer le fisc aussi. Mmh. Donc, c'est ce qui nous a amené aussi à nous investir dès 70, à créer ce nouveau style de vin qui n'était pas très bien perçu sur le marché espagnol, très rompu à boire des vins très boisés, des blancs et des rosés au bord de l'oxydation. Et il a fallu qu'on aille chercher des marchés à l'extérieur. Et cette vocation, elle est née un peu pour raison de survie.
Oui, c'est ça, une contrainte aussi. Et vos principaux marchés à l'export, la France, un marché important pour vous?
La France est notre sixième, septième marché à l'exportation. Le numéro un, ce sont les États-Unis.
États-Unis,
En général, on a 52% de nos ventes qui vont en Europe, 35% aux États-Unis, puis après, ça se répartit entre l'Asie.
David Cobold.
Un mot sur la consommation de vin en Espagne. Il faut quand même remarquer que la consommation par habitant en Espagne est maintenant inférieure à la consommation par habitant en Grande-Bretagne, ce qui est quand même assez frappant.
Bravo les Anglais.
Oui, et lorsque moi, quand je rentre, je vais régulièrement en Espagne, même dans différentes parties d'Espagne, je vais dans un bar à tapas parce que j'aime beaucoup ce style de vie. Et ben, je constate que la moitié des consommateurs, y compris les femmes, sont en train de boire des chopes de bière.
Des chopes de bière.
Petits verres de bière.
Ça vous choque le ça,
C'est dommage parce qu'il y a tellement de bons vins et un très bon prix en plus. Hein.
Oui.
Dans les restaurants et dans les bars, c'est bon, pas chier d'avoir un très bon vin. Hein.
Oui, tout à fait. Hein. Oui, c'est très. Il y a des prix.
À tel point que je crois qu'il y a eu, il y a quelque temps, une campagne nationale, on en rêverait en France, financée à la fois pour les producteurs et l'État, pour pousser la consommation du vin.
En Espagne,
c'est un trésor national, estimé comme une
prix. Mais tout à fait, mais il faut savoir quand même que. Que ce soit en Espagne ou en France, c'est quand même ça crée une économie au niveau rural.
Oui,
c'est indispensable parce que sinon il y aurait des villages, des régions entières qui seraient dépeuplées.
Bon, déjà, l'Espagne a beaucoup arraché. Hein, comme la France,
il faut éduquer le consommateur à boire avec modération, savoir apprécier les qualités de vin, mais c'est une activité économique indispensable.
Très importante. Et puis gustative, hein, c'est bon le bon vin avec modération, quoi. Oui. Et la crise en Espagne, on en est où, Christina? La consommation redémarre.
Ça redémarre. On a eu aussi une année record en tourisme qui a beaucoup aidé aussi.
Notamment en Catalogne.
Cette consommation de surcroît, quand on voit tous les gens de l'Europe du Nord, les Britanniques et tout, qui viennent profiter de nos plages, de nos soleils.
Et quand ils repartent, Christina, ils mettent des bouteilles de vin, enfin des caisses en tout cas, dans la voiture.
Ben, le problème, c'est que quand ils prennent l'avion, ils ne peuvent pas.
Oui, c'est qu'il y a l'avion. Voilà. Et en voiture ou dans leur carrière.
Ils boivent en Espagne, c'est déjà pas mal.
Ouais. Et ça, c'est un vrai facteur. Ça fait connaître les vins, apprécier les vins.
Ça fait connaître les vins. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils sont beaucoup plus proches. Ils ont cette sensibilité. Déjà, ils ont dégusté, ils ont apprécié. Donc, ils vont acheter ces vins chez
David
eux.
Cobold, potentiel, de façon générale, des vins espagnols, vous y croyez ou pas? Que ce soit sur les premiers prix ou les très, très, très grands vins très chers.
Moi, je crois beaucoup au potentiel d'Espagne parce que c'est un grand pays de producteurs avec beaucoup de diversité. Ma question porterait sur des marchés éloignés. J'ai lu l'autre jour dans un report sur une projection sur l'avenir des marchés de vin que beaucoup d'acteurs en Asie considèrent que, à part la France, c'est l'Espagne qui pourrait gagner des parts de marché d'une manière importante en Chine. Est-ce que vous confirmez ça?
Alors, justement, j'étais en Chine il n'y a pas longtemps et j'ai vu qu'il y avait une opportunité qui naît d'un intérêt assez récent, précisément, je ne vais pas dire comme alternative au vin, parce que c'est vrai que les vins très chers français ont été un peu pénalisés de par la corruption.
Oui. C'est agaçant, tous ces gens qui arrêtent de corrompre.
C'était quand même intéressant pour les grands cru de France. Et donc, peut-être que là, les grands vins espagnols,
oui,
par leur relation, peuvent être l'alternative.
Dernier petit commentaire, peut-être.
Oui, je souscris complètement. C'est le prolongement de ce qu'on dit tout à l'heure. Quand le marché domestique va moins bien, on se tourne vers l'exportation. Les Espagnols ont été très forts, très dynamiques là-dessus. Marquez de Caceres était
un exemple. Attention, pas de blague. Hein. Ça, c'est les cousins.
Un exemple. Et c'est d'ailleurs une concurrence pour les vins français, toutes proches, qui peut.
Et de Bordeaux, notamment. Notamment, quoi. Philippe Aurac.
Il t'a remarqué que le vignoble espagnol, historiquement parlant, le plus grand vignoble du monde, et que les rendements à l'hectare étaient assez faibles. Et finalement, les rendements à l'hectare s'améliorent. Et donc, on voit progresser automatiquement le volume de production du vignoble espagnol ces dernières années.
Christina, vous connaissez exactement de combien de barriques vous avez dans votre parc? Des barriques?
Des barriques, oui, parce qu'on a à peu près 30 000
barriques
fûts de chêne, dont plus de 60% sont des chênes français. Il faut savoir que nous, on a des vins en stock qui représentent 4 ans de nos ventes futures. On a des grandes réserves d'anciens millésimes.
Bon vent pour Marga de Caceres, en tout cas Christina. Continue de le faire rêver. Jacques-Olivier, on arrive sur les barriques. C'est votre sujet de Noël. C'est original, vous êtes un original comme garçon. Vous, hein.
Les barriques, oui. Il est de coutume, lorsqu'on s'intéresse à un domaine, à un vin, de se renseigner sur son chai, sur les conditions d'élevage du vin, et notamment en barrique, qui est d'ailleurs aussi une source d'information sur ce qu'on peut attendre du vin. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'avec un prix moyen de 650 euros environ par barrique,
évidemment, quand même, c'est cher une barrique.
Ça peut être beaucoup plus cher, mais si on doit identifier un prix moyen dans ces eaux-là...
Là, on parle de la barrique française, on ne parle pas de la barrique américaine.
Absolument.
Ceci multiplié par plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de barriques à acheter tous les ans ou tous les deux ans, le poste de dépense achat de barriques est le poste le plus important à la propriété, généralement juste après les salaires. Alors c'est un poste compliqué pour les domaines parce que le coût est important, il ne faut pas se tromper. Compliqué aussi parce que c'est un parc à gérer afin d'en tirer le meilleur. Ne pas oublier de renouveler ou d'établir un bon roulement des barriques pour le premier ou le second vin ou d'autres vins. Et puis surtout, ce qui se révèle extrêmement compliqué pour la propriété ou pour le domaine, c'est de se séparer des tonneaux utilisés et de les revendre. En fait, donc je le disais, c'est complexe. Le cours de la barrique se déprécie vite, environ la moitié de sa valeur chaque année. Il y a une abondance de l'offre, puisqu'évidemment, toutes les propriétés, un mot ou un autre, veulent s'en séparer. Et tout ça, c'est une activité très, très chronophage. Bref, on est typiquement dans le cadre d'une activité qui n'est pas le core business, le cœur du business de la propriété, mais qui constitue un besoin capital et à forte valeur ajoutée.
Et là, pof, un coup de baguette magique avec la société H&A Location.
H&A Location intervient. Au départ, ce sont... Alors, qu'est-ce que c'est ? Deux associés, Richard Hardier et Florent Arruy, qui sont deux anciens banquiers, et qui s'inspirent des pratiques dites de gestion locative qui peuvent exister ailleurs et l'appliquent à la filière. Ils créent donc cette société en 2004, jugé plus tôt, 2004 création à la société, au bout d'un an d'exercice, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 2 ans plus tard, 10 millions d'euros, 2012, 100 millions d'euros, 2016, ils vont atteindre 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une réussite incroyable.
Est-ce que c'est rentable ? Parce que le chiffre d'affaires c'est bien, mais la rentabilité c'est mieux.
Ils
gagnent des sous.
J'ai pas exactement le profit, mais ce sont des marges importante. C'est une activité qui tourne très bien et qui d'ailleurs, on en parlait là, je dirais un mot tout à l'heure, s'exporte de plus en plus en Espagne. Ils travaillent en Espagne, aux États-Unis, dans d'autres pays. Bref, c'est l'exemple typique de ce que j'appelle une innovation de marché ou comment créer un service, on est bien dans la prestation de service, générateur de valeur ajoutée pour la propriété.
Alors Jacques-Olivier, concrètement, comment ça marche ?
Alors, ils achètent, eux, auprès du tonnelier, en fonction du tarif négocié par la propriété, d'accord ? Il ne se substitue pas à la propriété pour négocier. Chaque propriété reste maître de ça. En revanche, c'est eux qui contractualisent et qui signent le chèque pour acheter les tonneaux. Ensuite, gestion locative du parc avec ses gains afférents, au premier rang desquels un gain de charge administrative. C'est une activité, évidemment, puisque la propriété n'a pas l'acheté directement, qui situe hors bilan, sans rentrer dans les termes techniques. Donc, il n'y a pas d'immobilisation ni d'amortissement. Et puis, ça permet aussi au domaine de contrôler le coût par millésime de façon tout à fait simplifiée. Qu'est-ce qu'ils font ensuite ? Comme je le disais, ils assurent le suivi du parc de barriques, suivi des opérations de barriques. Ça permet aussi d'avoir une vision générale de la gestion du chai. Et puis, l'historique des actions sur les barriques. Et enfin, troisième étape importante, c'est ce que je disais, qui prend beaucoup de temps. Ils assurent la reprise et la revente pour le domaine, ce qui est une véritable aubaine pour la propriété, qui n'a pas beaucoup de temps généralement à consacrer à cette activité commerciale. D'ailleurs, ce marché, hein, celui de la barrique d'occasion, qui est un marché lui aussi en pleine progression, constitue un tel marché qu'ils ont développé un centre de traitement de barriques, pas très loin de Bordeaux, pour vendre ce que l'on appelle des barriques fraîches. Les barriques fraîches, ce sont des barriques qui ont été retraitées et qui, à partir d'un cahier des charges précis et en parfaite connaissance justement de leur historique, puisqu'ils ont géré ce parc à barriques, sont ensuite remises sur le marché.
Alors, ils travaillent donc, ils sont implantés à Bordeaux, ils travaillent que à Bordeaux, au niveau mondial, il y a un parc important ?
Alors, bien sûr non, écoutez, des chiffres assez incroyables. Aujourd'hui, ils gèrent plus de 500 000 barriques en gestion. Ils ont, en France, 45% du parc de barriques sur le territoire viticole français.
C'est énorme.
Énorme. Mmh. Un peu plus d'une barrique sur deux à Bordeaux est, entre guillemets, entre leurs mains ou sous leur gestion. C'est une réussite française, incontestablement, je disais, qui s'exporte. Ils avaient ouvert, donc, on a parlé tout à l'heure, en 2006, une filiale en Espagne, à Madrid. En 2013, une autre à Milan. Et entre-temps, en 2010, ils ont ouvert une filiale à San Francisco aux États-Unis où ils sont en pleine croissance, où ils réalisent 30 millions aujourd'hui de chiffre d'affaires. Alors oui, par rapport à votre point, les clients sont bien sûr les crus qui disposent d'un parc à barrique important, qui se renouvelle beaucoup. Mais aussi, on trouve beaucoup de petites maisons dans toute la France. Et pour vous donner un ordre d'idée, ils ont un fichier client d'un peu plus d'un millier de domaines et de propriétés.
En France.
En France et à l'étranger. Et à l'étranger, avec un contrat moyen de 110 000 euros par client. Bref, je voulais le signaler parce que je parle souvent de domaine, la propriété, de réussite. Là, on est bien sur un joli succès, sur une activité périphérique de la filière, mais essentielle pour les domaines et les propriétés de France et d'ailleurs. Des beaux projets de pénétration à l'étranger, où ils arrivent désormais avec et leur avantage compétitif et leur expérience gagnée. Et en plus, c'est un sujet qui me tient à cœur, sur lequel je reviendrai d'ailleurs, dont je vous parlerai lors d'une prochaine chronique des clés de la réussite. Ils ont une vraie politique RH pour les collaborateurs du groupe. Et ça, c'est un sujet, le management et les ressources humaines, sur lequel aujourd'hui la filière doit se poser un certain nombre de questions. Voilà, bref, bien joué.
Merci, Jacques Lépès. Je suis content de retrouver Alexandre Bader, le directeur général du champagne Bilkart Salmon, que j'ai rencontré il y a quelques jours dans les salons du Bristol à Paris. Bonjour Alexandre Bader.
Bonjour Alain Marty.
Alors vous êtes né en 1968 à Sedan, diplômé d'une belle école de commerce, hein, l'ESCE, doublé d'un Master of Wine à Dijon. Mais pourquoi le vin? Votre famille était déjà de la partie, si je puis dire.
Eh non, mes parents étaient commerçants, mais en quatrième année de l'école de commerce, je suis descendu à Bordeaux avec quelques amis, j'ai découvert le vignoble. Et on a goûté quelques bouteilles remarquables de la cave du père et du grand-père de mon ami. Et dedans, il y avait un Saussant d'Aumalais des années 80. Et il y avait une très grande bouteille de Léo Villascaz des années 45-47.
Et ça, c'était déclic.
Ça, c'était exceptionnel. Et de la question qui m'est venue directement, peut-on faire du vin son métier?
Ouais. Et la réponse est oui.
Alors, 23 ans. J'ai trouvé la voie ensuite avec ce master où il y avait que des jeunes issus du vin. J'étais l'un des rares à pas être du tout mêlé de
génétiquement,
de, génétiquement, mais que de cœur et nouvellement de cœur.
23 ans au sein de cette maison Bilkart Salmon, bravo, belle longévité. Vous avez débuté comme militaire stagiaire ou stagiaire militaire?
Alors les deux, mon général. Nous avons donc démarré comme chauffeur stagiaire, donc je livrais en même temps que je faisais mon service militaire. Et en fait, quand j'ai rencontré François Bilkart en 92, début 93, je lui ai dit « j'aimerais bien bosser chez vous ». J'en rêve, mais j'ai besoin d'un petit service, il faut que je fasse le service militaire.
Le service.
J'étais la dernière promo, je crois.
Pas de bol, hein?
Mais c'est vachement bien. C'est formateur.
Le capital aujourd'hui de la maison, donc vous êtes indépendant toujours? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup au champagne.
La maison Bilkart, oui, est majoritaire. La famille Bilkart est là depuis maintenant 6 générations. La 7e même vient de démarrer avec Nicolas qui a 27 ans. Hein, qui est rentré dans la maison il y a 4 ans et c'est une grande famille champenoise installée depuis bientôt 200 ans. On va bientôt inaugurer, on va surtout célébrer le bicentenaire de la maison en 2018.
2018, donc tout a débuté en 1818, si mes calculs sont bons.
Oui. Madame Salmon, Elisabeth de son prénom, a épousé Nicolas-François Bilkart et ils ont fondé tout de suite la maison Bilkart Salmon. 6 générations plus tard, François-Roland Bilkart dirige la maison et donc c'est assez exceptionnel, voire unique en Champagne.
Bien sûr. Le positionnement aujourd'hui, vous êtes quoi? Vous êtes luxe, rare, élégant, bon, sympa, vous l'avez.
Alors,
la maison.
On est un petit peu tout, mais on est surtout des artisans et avec un savoir-faire familial qui est unique parce que je reviendrai sur un sujet. Dans le comité de dégustation, il y a des nés et les nés, il y a 2 voire 3 générations de la famille dans le comité de dégustation aux côtés du chef de cave et du maître de chai. Et ça, c'est unique en Champagne parce qu'un nez, c'est un style. Et un style, c'est quelque chose d'assez rare. Et ça ne peut être qu'une transmission familiale.
Un peu comme un cognac, peut-être. Hein.
Absolument. Comme les grands alcools, comme les grands vins. On a la chance d'avoir 3 générations. Monsieur Bilcar Jean, 93 ans, Monsieur François et Antoine Roland Bilcar, les deux frères, qui eux sont évidemment partie prenante des vins, et Nicolas, qui nous a rejoint il y a quelques années, qui goûte de mieux en mieux.
Bon, ça c'est une chance pour la maison. Vous avez également d'autres actionnaires ?
Et nous avons Monsieur Frey, qui a une participation importante dans la maison, et lui a acquis aussi le château de la Lagune il y a quelques années, et plus récemment, la maison Jaboulet.
Franchement, des très belles maisons. 35% de votre business, Alexandre, sur le marché français, c'est stratégique pour vous de rester maître chez vous, si je puis dire ?
C'est crucial. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la France, c'est la vitrine. La France, c'est la véritable passion de la table, la véritable passion du partage, la véritable passion du bonheur. Et lorsqu'on arrive en France, on a envie de venir visiter un restaurant et de s'asseoir. Ça, c'est typiquement français. C'est très français, bien sûr, latin. Mais en France, on aime le vin, on aime la table. Alors, il est stratégique pour la Maison Bilcar d'être, en tout cas, visible sur les meilleures tables françaises et chez les cavistes indépendants.
Alors, quand on dit Bilcar Salmon, c'est presque un synonyme de champagne rosé de qualité. Pourquoi ?
Ah oui, alors le rosé, bon, bah, écoutez, au début des années 90, avec François, on s'est interrogé, on a décidé de remettre, on va dire, le rosé au goût du jour et d'essayer, on va dire, pardonnez-moi ce terme, de le démocratiser en le rendant accessible au verre. Et à l'époque, on allait voir les sommeliers et les sommeliers nous disaient non, pas de rosé, personne nous en demande.
Alors, c'est si, pas les vrais vins, quoi, pas les vrais champagnes.
Oui, en plus, personne nous en demande du rosé. Ben si vous le proposez pas, on peut pas vous en demander. Bon, alors résultat, on a réussi à avoir quelques amis qui nous ont fait des opérations. Et puis, ben aujourd'hui, maintenant près de plus de 20 ans plus tard, le rosé Bilcar est un acteur majeur du rosé en Champagne.
Ouais, c'est une référence. Et vous avez également un clos.
Nous avons le clos Saint-Hilaire. Alors c'est un clos qui est Saint-Hilaire, c'est
Est-ce que c'est un vrai clos parce que parfois ça bidouille un peu dans les vignobles.
Alors là ça ne bidouille pas du tout, c'est un vrai clos qui a été planté à la fin des années 50, première vendange 1995, tout en bois, en petit fût avec des fûts de 7 à 10 ans, 12 ans et nous avons donc un vrai pinot noir qui est en premier cru avec dans un vrai clos. Hein, avec, nous sommes sur une agriculture en plus. Là, nous sommes sur quasiment du, on va dire, c'est du bio. Hein. Nous sommes avec, il y a des chevaux. Là, j'y étais la semaine dernière. Il y avait des moutons qui commençaient.
Donc, quand il y a des chevaux et des moutons, ça veut dire que c'est bio, Alexandre.
Alors, ça c'est pas mal non plus. Mais surtout, il y avait les feuilles qui pouvaient être dégustées par les moutons. Et Dieu sait que les dernières grappes, restaient, les moutons se sont régalés.
Se régalés. Au total, vous avez 280 hectares de vignes avec lesquels vous collaborez, on va dire.
Voilà. Alors, on a un tiers de ces 280 qui sont notre propriété avec notre partenaire. Nous avons aussi 80 hectares, on va dire, en fer bâche, c'est-à-dire qu'on s'occupe du jardin et on récolte les fruits. Voilà, ça c'est le travail de Denis Blé, à qui je rends hommage parce qu'il a développé toute cette branche d'activité de façon remarquable. Et c'est également notre maître de chai. Hein. C'est lui qui s'occupe de tous les vins faits en barrique. Et nous avons cet autre tiers avec des accords depuis très longtemps avec des partenaires vignerons qui nous vendent le raisin. Voilà.
Et côté communication, vous organisez régulièrement des dîners, un dîner par semaine dans le monde.
Alors, on fait des Bilcar dîners, ça ce sont des invitations à partager des mets avec des vins de champagne différents, hein, de millésimes différents. Dernier en date, c'était chez Gagnère à Tokyo. C'était la semaine dernière où il y avait sept vins de la maison associés à sept plats. Il y avait foule puisque le restaurant était complet. En moyenne, c'est un à deux par semaine. Ce soir, il y en a
un à deux par semaine.
Ouais, ce soir, il y en a un quelque part dans Paris.
Y compris le dimanche.
Voilà, hein, bien sûr, le dimanche, ce soir, dimanche, il y en a un à Paris, pas très loin d'ici d'ailleurs, et je crois d'ailleurs que c'est complet.
Et pour terminer, Alexandre, pour tous les auditeurs de BFM qui veulent venir vous voir massivement ou prendre enseignement sur cette belle maison, vous avez un site internet, une adresse peut-être à nous communiquer ?
Alors avec plaisir, c'est www.champagne-bilcar.fr.
On vous souhaite quoi pour 2017 ? Le plus grand des bonheurs ?
Surtout beaucoup de bonheur pour ceux qui consomment du champagne, d'abord. Voilà, et qui aiment le champagne, l'une des plus belles régions de France.
Voilà, c'était Alexandre Bader, le directeur général du Champagne Bilcar Salmon. Nous marquons une petite pause et ensuite retour au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Pour cette émission en public et délocalisée, nous parlerons d'un sujet passionnant, la fraude dans le vin.
Invino BFM, Alain Marty sur BFM Business.
Retour au restaurant Bar à Vin Nicolas Paris, 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée. Une nouvelle fois, joyeux Noël à tous et à toutes. Notre ami Eric Rievert est parmi nous, notre ami journaliste qui nous parle d'un sujet passionnant, la fraude dans le vin. Ça bidouille dans le vin ?
Oui, absolument. Et justement, c'est Noël et j'ai une pensée émue pour tous les enfants qui rencontrent dans les grands magasins de faux Père Noël avec des fausses barres. Et c'est cela qui me fait penser au problème de faux vin.
Vous cassez un mythe, Eric.
Non, mais des faux vins qui envahissent les marchés. C'est un phénomène, en fait, qui touche tous les secteurs et tous les produits. Par ces temps de fake news et des fausses nouvelles prospèrent sur les réseaux sociaux, l'authenticité est devenue une denrée rare. Un gros titre du journal Le Monde l'autre jour a déclaré que la contrefaçon est devenue une arme de destruction massive en termes de revenus et d'emplois. L'article fait état du fait que 30% des médicaments vendus dans le monde sont des faux. Qu'en est-il alors pour d'autres médocs comme ceux de Bordeaux?
Médocs, les médocs ou...
Ben justement, ah, ces médocs-là.
Le vin est un médicament, chacun
voilà. Ça. Donc, la fraude du vin est devenue un fléau encore plus virulent dès qu'il s'agit de vieux millésimes des grandes marques comme la Romani Conti ou de Lafite. Deux cas très médiatisés ont retenu mon attention. D'abord, celui du collectionneur allemand Hardy Rodenstock. Il vendait très cher un certain nombre de prétendues bouteilles de Lafite 1787 qui, selon lui, provenait d'un stock caché de Thomas Jefferson qu'il aurait déniché dans une cave secrète à Paris. La première vente d'une telle bouteille a eu lieu en 1985 chez Christie's à Londres pour un montant de 105 000 livres sterling par bouteille, vendue au milliardaire américain Malcolm Forbes du magazine Forbes.
Oui, enfin, il est milliardaire, donc il peut perdre aussi un peu de temps en temps, non?
Oui, justement. Quand même. C'est un autre milliardaire américain, ouais. William Koch, ouais. Qui a sonné le glas pour les transactions douteuses de Rodenstock, après avoir engagé des poursuites judiciaires contre lui en 2006. Tout cela est raconté avec moult détails dans le livre « The Billionaire's Vinegar » ou « Le vinaigre du milliardaire » avec comme sous-titre « Le mystère de la bouteille du vin la plus chère du monde ». Publié en anglais en 2008, ce livre n'a toujours pas été traduit en français.
C'est dommage, ça.
Mais Hollywood en fera un film bientôt avec l'acteur Matthew McConaughey. Mais on ne sait pas encore...
Très bon acteur.
Justement, mais on ne sait pas encore dans quel rôle il va jouer. Celui de fraudeur charmant, celui de milliardaire arnaqué ou celui d'un true detective de vin. Malgré un nuage juridique assez trousse, Rodenstock n'a jamais été jugé. Pourtant, il semble avoir admis ses actes fraudes de manière ludique, ironique, dans un fax à Coke, où il dit « Pourquoi êtes-vous si remonté à moi, contre moi, excusez-moi, car après tout, même Jésus était un faussaire de vin vers l'acte de transformer l'eau en vin. » Un autre escroquerie de vin à grande échelle démarrait sur le sol américain en ce moment-là. Je parle des contrefaçons de Rudy Kernawan, lui-même sujet d'un documentaire diffusé sur la chaîne de télé Arte en septembre dernier, mais que les abonnés de Netflix en France peuvent toujours regarder. Le titre est « Sour Grapes » ou « Raisin amer ». Rudy était un jeune homme passionné de vieux millésimes et estimé comme un très grand dégustateur, capable d'identifier de très grands vins à l'aveugle. Mais il était aussi très flambeur. Mais en peu de temps, il est devenu la coqueluche des collectionneurs américains à qui il vendait des bouteilles. Dans le documentaire, on voit Rudy faire sa danse du ventre devant une bande de joyeux drits friqués et frimeurs. Personne ne sait à quel moment il a décidé de franchir le Rudycon et de verser dans la magie noire de fabrication des contrefaçons des grands vins, avec beaucoup de talent d'ailleurs, souvent à partir d'assemblages astucieux, capables de tromper même les professionnels du vin. Les deux agents de la chute de Rudy ont été le producteur bourguignon Laurent Ponceau et le milliardaire Koch, déjà arnaqué par Rodenstock avant de devenir le pigeon de Kernawan. Ensemble, ils ont réussi à faire condamner Rudy à 10 ans de prison en 2014. Rudy est devenu la première personne envoyée en prison pour la fraude du vin en Amérique. Laurent Ponceau, qui a témoigné pour le procès, estime que la punition était trop clémente. Il méritait 20 ans de prison parce que, et je cite, « il a terni l'image et l'intégrité des appellations des vins de Bourgogne et de Bordeaux ». Selon toujours Ponceau, les fausses bouteilles salissent l'esprit du vin et aussi, je dirais, l'esprit de Noël.
Oh, ah, c'est bien, c'est super. Et, allez, on réagit deux minutes, Jacques-Olivier, ça vous choque, ce qu'on Il y a un côté rigolo quand même, non?
Ça dépend de quel côté on se trouve. Ça dépend. Bref, il y a pas mal de commentaires à faire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans des marchés comme ça qui le structurent, c'est une réalité. La fraude existe. Et plus les valeurs des produits, les valeurs ajoutées des produits s'envolent, plus forcément, ça attise des actions de ce type frauduleuse.
Philippe Orba, vous qui avez goûté quasiment tous les vins du monde, vous êtes déjà tombé parfois sur une fausse bouteille.
En tout cas.
Et là, vous dites, ça, c'est pas ça.
Il m'est arrivé d'être invité avec des gens dont on vient de parler et d'avoir franchement des doutes sur ce qu'on goûtait.
Sur des vieux millésimes.
Sur des vieux millésimes, ouais. Notamment et sur des grands vieux millésimes. Je pense à un Cheval Blanc 47 qu'on a goûté un soir. J'avais eu la chance d'en goûter
quelques jours
parce que c'est on en goûte pas souvent.
C'est votre quotidien quelque part.
Faut nous goûter dans Philippe, ma vie. Hein. Et c'est, alors ce qui est perturbant et c'est là-dessus que jouent les faussaires, c'est que un vieux vin finalement, chaque bouteille évolue différemment.
Ouais, c'est
donc pourquoi celle-là ressemble pas à telle autre? Ben oui, mais chaque bouteille évolue, et même quand c'est du vrai vin.
Et oui.
Quand c'est du faux, ça.
Et là, vous aviez un doute sur 47.
Et là, on avait vraiment un doute. Est-ce que dans le très bon papier d'Éric, il n'a pas évoqué encore un autre pays, parce qu'en Chine, par exemple, c'est un sport national. Mais là, il faudrait plus que le jour de Noël pour vous raconter tout ça.
Oui, je crois qu'il y a 700 000 fausses bouteilles de Lafitte en Chine. David Cobol, ça vous est déjà arrivé d'avoir. On vous fait un cadeau, puis pof, c'est pas un vrai cadeau,
non,
c'est un vrai
non,
faux
non,
cadeau.
Non, j'ai pas eu ça parce que je ne suis pas milliardaire et je ne suis pas Philippe Forbrecht.
Mais
la fraude en Chine est à une autre échelle parce qu'il ne s'agit pas simplement des bouteilles de collection. Il y avait un grand scandale avec Mouton Cadet qui est quand même une entrée de gamme pour la famille Rothschild en Chine et énormément, une grosse production. Il y a eu des fausses Dom Pérignon fabriquées à Cuba.
Éric,
Ces scandales sont récurrents.
C'est même parfois un art en Chine.
Oui,
mais parce qu'on parle de mouton, Rudy était très doué. Il faisait jamais de la piquette. Voici sa recette pour un mouton 45 entre ses mains. La moitié, un Pichon Comtesse 88.
Ah, quand même!
Un quart d'un Cabernet Trémur de Napa Valley et un quart d'un vieux Bordeaux oxydé.
Ah oui,
et voilà. Ça marchait et ça avec les professionnels.
Bon, Philippe Forbach. Et après, on nous embête.
Maintenant, on sait comment faire.
Et pour faire du rosé, du blanc et du rouge, David, ça marche aussi ou pas?
Aussi, le rosé, ça, c'est une autre affaire. Mais je tiens à dire quand même qu'on peut trouver des bouteilles ajustées. Après tout, autrefois, les Bordeaux étaient remontés par l'Hermitage.
Principe. Okay, Philippe Forbach, est-ce qu'il existe des faux Meursault ou pas?
J'espère que non.
Et si on en parlait?
Mais si on en parlait du Meursault, exactement. C'est vrai qu'on va changer légèrement de sujet. Même si Meursault est une appellation qui a le vent en poupe depuis très longtemps, que ça fait partie des appellations emblématiques, et que vraisemblablement, il y a des gens qui ont peut-être usé ou abusé de cette petite appellation. Alors, on est en plein cœur de la Bourgogne, on change un peu de rive et de tempérament. C'est un terroir qui est assez unique en plein cœur de la Côte d'Or, et même de la Côte de Beaune en particulier. Et dans cette Côte de Beaune, où il y a de très bons vins depuis les Courtons Charlemagne jusqu'au Marange, plus au sud, à la limite avec le département de la Saône-et-Loire, on a une poche particulière qui est un terroir de type calcaire au milieu d'un endroit qui est plutôt avec à vocation de rouge dans ce coin-là, puisqu'on y trouve des terrains argilo-calcaires par ailleurs. Et là, il y a cette poche, et il y a trois appellations qui se distinguent particulièrement au milieu de cet endroit. C'est Meursault, Puligny et Chassin de Montrachet. Et c'est pas le hasard parce que c'est la terre qui parle finalement pour donner une empreinte particulière à ces grands chardonnays, puisqu'il s'agit du cépage chardonnay dans cette région-là. Meursault est sûrement une des appellations en blanc parmi les plus connues, même si Chablis tient un petit peu la vedette en termes de notoriété au niveau mondial. Il faut dire que Chablis, c'est plusieurs milliers d'hectares. Meursault, c'est quelques centaines d'hectares. Dans une hiérarchisation qui se fait. Alors, il n'y a pas de grands crus à Meursault, c'est bizarre et étonnant. Non pas qu'il n'y ait pas des grands terroirs, parce qu'ils y sont, mais ils se sont jamais mis d'accord pour savoir si Perrières ou Les Charmes, par exemple, qui sont les deux terroirs, ou les deux crus, premiers crus les plus célèbres, méritaient le statut de grand cru. Il se dit qu'au moment de la classification...
C'est que une querelle de clocher, Philippe.
Oui, et de fisc. Parce que lorsqu'on a évoqué la classification en Bourgogne, c'est dans les années 30 notamment, en 35, 36, vraiment au début des AOC, il y avait certains producteurs qui sont dit non, on ne va pas rentrer dans les grands crus, on va payer des taxes supplémentaires, etc. Notre vin se vend, on est bien comme ça, etc. Donc ils sont restés premiers crus et pas grands crus. C'était juste une approche à la fois personnelle et avec une vision peut-être un peu à court terme, effectivement, de ce que ça a pu devenir. Mais néanmoins, il y a de grands terroirs. Il y a de grands vignerons également. On va revenir sur quelques-uns tout à l'heure. Et on y produit, bien sûr, essentiellement du blanc, 95%, mais il y a un tout petit peu de rouge à Meursault. Issu du Pinot Noir.
Et il est comment ?
Qui est plutôt pas mal. C'est pas le plus grand rouge de la Bourgogne, il faut bien dire les choses. Mais en tout cas, il a un succès au-delà de l'estime. C'est-à-dire qu'il y a une certaine élégance, une certaine classe. La partie des rouges est plutôt située du côté de Volnay, puisque Meursault-Volnay se chevauche un petit peu à certains endroits. D'ailleurs, dans la législation bourguignonne, toujours aussi simple, et comme vous êtes tous bien réveillés aujourd'hui en ce jour de Noël, pas trop embrumés, tous les blancs situés sur le secteur des Centenots qui ont droit à l'appellation Meursault, même s'ils sont situés sur la commune de Volnay, et tous les Volnay, tous les Centenots qui rouges situés sur le secteur limitrophe, même s'ils sont sur Meursault, on doit l'appellation Volnay. Enfin, c'est extrêmement simple à se faufiler entre les deux.
Oui, surtout expliquer ça à un Japonais qui est né aux États-Unis et qui a vécu en Russie.
Meursault doit sa notoriété à la qualité de ses vins, à son histoire, à sa mairie également, qui est extrêmement célèbre. C'est une très jolie mairie qui a servi notamment de lieu de tournage à la fameuse Grande Vadrouille, éternelle film qui rejoint.
C'est un film de Noël, ça.
Bourville, exactement. Et c'est qu'on voit chaque année en fin d'année. Donc, je ne sais pas si certains l'ont vu cette année. Vous pouvez acheter le DVD, vous pouvez regarder, je ne sais pas, sur Netflix encore, peut-être, ce film c'est historique. Et c'est vrai que cette mairie est juste magnifique. Quand on y passe devant, on se dit, tiens, on a déjà vu ça quelque part, et ça rappelle quelque chose. Alors, il y a plusieurs propriétés très célèbres. Une emblématique, le fameux château de Meursault, qui rassemble chaque année, notamment, l'occasion de la polée de Meursault, le lendemain de la vente des vins des Hospices de Bonne, beaucoup de monde. La polée, ça fait vivre ce jour-là Meursault, ça fait frémir Meursault, ça commence très tôt, ça se finit à point d'heure. On peut aller dans les caves, les vignerons sont là pour accueillir. Et puis il y a le déjeuner. Quand je parle de déjeuner, c'est un brunch allongé, puisque on finit sur, peut-être un peu allongé, c'est vrai, mais rallongé, puisqu'on commence en fin de matinée et ça se finit quasiment très tard le soir.
Trois jours après.
Exactement, chacun amène quelques bouteilles de son choix.
Avec modération, toujours.
Et les bouteilles circulent d'une table à l'autre avec modération.
Demi-verre.
Voilà, mais en même temps avec beaucoup d'enthousiasme. Et ça fait vivre, effectivement, ce jour-là où ça fait résonner Meursault de façon particulière. Le château de Meursault produisait avant une cuvée, d'ailleurs, d'assemblage un peu de tous les différents terroirs en premier cru ou en village. Ces dernières années, ils se sont mis à faire des parcellaires et revendiquer les notions de cru de façon plus précise, et du coup, ça devient un peu plus intéressant.
Quelques vignerons, peut-être.
Parmi les autres vignerons, bon, alors là, il y a des stars incontournables. Le domaine Cocheduri, par exemple, fait partie de ces domaines emblématiques. Quand on a la chance de pouvoir acheter son vin à une vingtaine d'euros à la propriété, on est extrêmement gâté, parce que sur le marché parallèle, entre guillemets, ça peut atteindre vite 100 ou 200 euros la bouteille. Le domaine des Comtes Lafond est un peu dans le même esprit. Ils ont beaucoup œuvré pour l'appellation, la famille des Comtes Lafond, notamment justement sur le fameux classement dans les années 30. Parmi les autres domaines, le domaine Rouleau, le domaine Moret Blanc, j'aime bien le travail que fait Mikulski, c'est des jeunes qui vont très bien, un propriétaire qui s'appelle Boisson, ça ne s'invente pas, hein, c'est juste délicieux à goûter. Le domaine
Fermenté, avec Boisson.
Par exemple, Génaud Boulanger aussi, c'est plutôt pas mal avec... bonne baguette. Le Philippe Bouzereau, avec son propriétaire qui s'appelle le château de Citeaux.
Bon, donc il y a vraiment beaucoup de
vins.
Combien ça coûte, vous dites, Philippe, hein?
Alors, ça coûte. La gamme est large, comme on dit. Hein. La plupart des Meursault villages coûtent une vingtaine d'euros. D'accord. Les premiers crus, il faut rajouter
10 euros.
Selon les crus. Alors, il y a aussi des intermédiaires entre les villages et les premiers crus, des climats qui ne sont pas classés premiers crus, mais qui sont quand même des parcelles particulières.
Voilà, entre 20 et 50, on dit.
Voilà, exactement, à peu près dans ce prix-là. Ce qui est intéressant aussi, juste pour terminer, c'est que le Meursault, c'est super agréable, jeune. Sur son fruité, sur son côté un petit peu agrume, extrêmement désaltérant. Il y a à la fois du gras, la densité, mais en même temps beaucoup de fraîcheur et d'acidité. Ça permet de donner beaucoup de désaltérance au vin.
Mais
ça vieillit bien. J'ai eu l'occasion de me goûter des Meursault d'une vingtaine d'années, qui étaient juste remarquables. Et gageons qu'avec une belle poularde, un chapon, quelques champignons en cette saison...
Ce qu'on a dégusté hier soir, quoi.
Eh bien, exactement, peut se faire plaisir vraiment
Eric,
avec
Eric, vous aimez les belles poulardes, vous?
Oui, justement, tout récemment, j'ai bu avec des truffes blanches d'Albe un Meursault Perrier 93 de la Font qui était absolument somptueux.
Ça marche avec la truffe, Philippe?
Ça fonctionne bien. Et Perrier, en plus, garde toujours de la fraîcheur, même avec le temps.
David Cobol,
alors
vous
que
aimez
charme
la...
plutôt s'exprime sur la rondeur et la générosité.
David Cobol, vous aimez la bière ou pas?
J'aime beaucoup la bière,
en
oui.
En tant que bientôt futur ancien anglais?
Oui, je viens d'une famille brassicole. On avait une brasserie familiale qui date de 1703.
Et bien, on en parle. Plus. Merci, Philippe Aubin, qui devient le BFM, toujours en public, et de localiser au restaurant Bar à Vin. Nicolas à Paris accueille un nouvel invité, Martin Pelé, qui est cofondateur de la Bière Fabrique. Bonjour, Martin.
Bonjour à tous.
Alors, vous dites, la bière industrielle est morte, vive la bière artisanale. C'est gonflé, ça.
Alors, en fait, je sais
pas. Et c'est
pas
sympa pour les petits copains.
Je crois d'abord que c'est pas vrai, mais vive la bière artisanale, en tout cas.
Allez-y, Martin.
Alors, la bière artisanale, en fait, c'est en train de complètement changer. C'est un mouvement de fond qui s'est amorcé depuis à peu près une dizaine d'années, qui vient des États-Unis. Et en fait, vous n'êtes peut-être pas rendu compte, mais il y a beaucoup plus de brasseries artisanales qui ouvrent en France.
Il y en a combien à peu près, Martin?
Il y en avait une trentaine dans les années 80 qui ont toutes disparu à cause de l'industrialisation. Et là, il y en a une qui ouvre tous les trois jours.
Tous les trois jours. Il y en avait combien au 19e siècle?
Il y en avait à peu près 3500.
Ah, quand même. Donc il y en a déjà eu beaucoup, quoi. Et la tendance, c'est vraiment, deux par jour, c'est.
Voilà, deux par jour. Il y en a un peu plus d'une centaine qui ont ouvert cette année.
Mais est-ce que parce que c'est artisanal, c'est forcément bon? Et réciproquement, quand on est industriel, est-ce que c'est forcément mauvais?
Alors, la bière artisanale, c'est une bière qui se destine à un public de connaisseurs. Donc,
pas à l'industriel?
Non. Bon. Donc, c'est une bière qui est très différente des bières que vous avez l'habitude de boire. Généralement, quand vous allez dans un café, que vous commandez une bière, c'est une blonde, c'est une lager, c'est une bière de fermentation basse qui fermente à basse température. Donc, il y a assez peu de choses qui se dégagent. Essayez de vous souvenir des arômes d'une Kronenbourg, par exemple. C'est très très plat. Mmh. La bière artisanale, ce sont souvent des bières de fermentation haute. Donc il y a beaucoup plus d'arômes, c'est beaucoup plus riche. Voilà, il y a plein de choses à découvrir.
Jacques Olivier,
alors moi je le note incontestablement.
Vous aimez la bière, Jacques Olivier?
Oui, j'aime beaucoup la bière. D'accord. Oui, et j'observe en tous les cas cette évolution nette. J'ai une question. Ça participe quoi d'un projet plutôt personnel, ces entrepreneurs là qui démarrent cette nouvelle activité? C'est une histoire personnelle ou c'est un projet, une ambition professionnelle?
Alors c'est un peu des deux, mais c'est avant tout une histoire personnelle. En fait, avec mon associé Gaspard, qui était lui aussi à l'ESSEC, on brassait de la bière dans notre garage depuis de nombreuses années. Donc on faisait ça le week-end, on faisait des brassins de 20-25 litres. Et on s'est rendu compte...
La bière de garage, donc.
Exactement, la bière de garage. C'est très très bonne. Et après quelques essais, on s'est rendu compte qu'en fait, facilement, on arrivait à faire une très bonne bière, qu'on a breveté tous nos copains de l'ESSEC. Et absolument personne ne savait que c'était possible. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on en parle dans le grand public, personne ne sait.
Et alors, ce concept de la bière fabrique, c'est quoi? Alors,
le concept, c'est qu'on a la prétention en 4 heures de vous apprendre à faire votre propre bière.
Même David Cobol sera à la faire?
Exactement, oui, je pense que c'est possible.
C'est génial.
Donc en fait, vous arrivez, vous ne connaissez rien à la bière. On vous fait une petite initiation, on vous explique les étapes. On vous explique ce que c'est de la bière. Il y a beaucoup de gens qui ont plein d'a priori sur la bière, qui en fait ne savent pas ce que c'est. Et après, on vous fait fabriquer une bière de A à Z.
De A à Z. Vous êtes basé dans Paris, c'est ça?
On est dans le 11e arrondissement.
Quelle adresse?
6 rue Guillaume Bertrand.
D'accord.
C'est en face de l'USCP.
Et donc là, les concurrents là. Et donc là, on arrive et c'est l'objet même de votre entreprise? Ou alors c'est aussi de vendre la bière? C'est pas que pour, c'est pas qu'un but pélagique?
Alors nous, on est parti d'un constat, c'est qu'en fait, il existait déjà des ateliers de brassage.
D'accord.
Mais qu'il n'y avait pas d'expérience complète autour de la bière artisanale. Donc nous, on propose des ateliers de fabrication de bière et en même temps on a une cave à bière pour que les clients puissent poursuivre l'expérience chez eux et boire de la bière, et on propose aussi du matériel de brassage amateur comme ça.
Donc vous allez créer vos concurrents?
Oui et non, puisqu'en fait une fois qu'ils ont fait l'atelier, après ils n'ont plus de raison de venir chez nous à part pour acheter du matériel et acheter de la bière.
Bon, c'est malin ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on réagit. Eric, vous aimez la bière, Eric, ou pas?
J'aime la bière, c'est après une longue journée de dégustation de vin, la bière c'est très désaltérant.
Avec modération aussi, hein. Philippe,
il y a un côté extrêmement...
Vous en buvez un peu, Philippe?
Désaltérant. Moi je suis pas un grand consommateur de bière, mais j'avoue que je suis interpellé par les bières artisanales parce que j'aime bien sentir. Goûter juste un petit peu. Je bois pas de bière, mais j'aime bien les goûter. Or, les bières traditionnelles, les bières industrielles, on en a goûté une, on en a goûté presque toutes. Quoi. Alors que là, il y a à chaque fois une émotion particulière qui me plaît à vivre. Alors, j'ai bien compris que vous aviez financé vos études à l'ESSEC, c'est ça, en vendant la bière du garage. Et que vous êtes installé maintenant en face de l'ESSEC pour continuer finalement votre commerce.
À quand Jean-Josas?
C'est non seulement une démarche, effectivement, de brassicole, mais c'est également une démarche commerciale quelque part.
Oui, tout à fait. Mais en fait, notre vraie ambition, c'est de démocratiser la bière artisanale.
Ce qui est légitime.
Oui, oui, non, mais tout ça. Pour revenir sur la question tout à l'heure, en fait, nous, vraiment, on est passionnés par la bière. Et notre ambition, c'est de faire connaître la bière et de montrer aux gens que c'est différent de ce qu'ils ont l'habitude de boire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les lagers, donc les bières qu'on boit dans un bar, les blondes, c'est 90% de la bière bue dans le monde. C'est une bière qui n'existait quasiment pas il y a 150 ans et qui maintenant prend toute la place. Le segment des bières artisanales en France, c'est 0,5%. Et aux États-Unis, c'est une vingtaine de pourcents.
Et votre business model, alors, c'est quoi? Donc, vous gagnez des sous comment?
Notre business, c'est un business d'atelier.
Donc, d'accord. Donc, les 4 heures, ça coûte combien?
Les 4 heures, c'est 160 euros pour 2 personnes.
Pour 2 personnes, très bien.
Les 15 litres de bière qui sont fabriqués.
Pour faire sa bière dans ses toilettes à la maison, c'est combien?
Alors, c'est à partir de 50 euros.
À partir de
50 euros, on peut faire 15 litres de bière chez soi. Si on a envie vraiment d'investir dans de l'équipement pour brasser de la bière tous les week-ends, comme ce qu'on faisait, ça coûte à peu près 200 euros.
200 euros, quoi. Et après, on revient chez vous pour acheter des ingrédients, des choses.
Voilà, après, on achète les ingrédients, donc le malt, le houblon, la levure. Faire de la bière, quand on le fait chez soi, ça coûte entre 50 centimes et 1 euro le litre. Donc, c'est nettement moins cher que d'en acheter.
C'est super malin, Jacques Olivier, non?
Oui, puisque ce qui est marrant, c'est que contrairement au vin, la bière, c'est un marché qui est très concentré. Donc, on a souvent dit que dans la bière, pas d'avenir si vous n'êtes pas une grande marque et que vous arrivez avec de gros budgets marketing. Et là, on observe au travers de cette tendance exactement l'effet levier inverse.
Non, c'est super. Vous avez un site internet, un site pour prendre
renseignements? Alors, le site, c'est www.labirefabrique.com.
La bière, vous écrivez la bière?
B-E-E-R, fabrique, comme une fabrique en français.
Très bien. Et l'adresse, donc, en face de l'ESCP, là?
6 rue Guillaume Bertrand, dans le 11e arrondissement.
C'est ouvert quoi tous les jours? Alors peut-être pas aujourd'hui parce que c'est Noël, mais sinon...
On fait des ateliers tous les soirs et le week-end.
Tous les soirs et le week-end. Ouais. Et ça, c'est votre job à temps plein avec votre copain de la CPE.
Tout à fait, ouais, depuis 6 mois.
Bon, c'est super en tout cas. Est-ce qu'on parle du concept de minéralité dans la bière?
Je ne sais pas.
Eh bien, David Cobol, c'est votre nouveau cheval de bataille, mon cher David, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. Minéralité, ça vous chatouille, non?
Je sais pas. Est-ce que vous vous sentez un peu minéralisé aujourd'hui, Alain? Après votre déjeuner-dîner de...
Oui, hier soir, le réveil. Mais c'est avec modération, hier soir, on s'est couché à 21h, vous voyez, alors, on a bu un petit verre, c'est tout.
Je pars du constat qu'il est quand même très difficile de décrire le goût d'un vin par des mots. De mettre des sensations physiques, que ce soit olfactives, tactiles, gustatives, en paroles, c'est un challenge quasi impossible, c'est mission impossible. On procède en général par analogie, des descripteurs justes, précis sont extrêmement rares. Donc on fait des approximations et de plus la mode se mêle à cette affaire-là. Rappelez-vous, cher Alain, il y a quelques années, on parlait, enfin peut-être une dizaine d'années, on parlait d'un vin qui avait de la cuisse. Plus personne n'utilise ce genre d'expression aujourd'hui, c'est complètement ridicule si vous sortez ça. Mais aujourd'hui, je sens depuis 5 ans à peu près, peut-être un peu plus, régulièrement le terme minéral ou minéralité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je m'interroge sur ça. Alors un vin... décrit comme étant minéral, en réalité, on fait un raccourci pour ayant un goût qui semble relever du domaine minéral. Mais c'est un peu long, donc on dit minéral. Alors, le problème est qu'avec les raccourcis, on simplifie la notion et on décrit pas réellement ce qui se passe. Il y a, bien sûr, des minéraux en petite quantité dans tous les vins, mais pas plus dans certains que dans d'autres. Tous les vins contiennent des minéraux. C'est un composant du vin. Donc il n'y a pas des vins plus minéraux et de toute façon ces minéraux n'ont aucun goût, soit ils existent dans des quantités qui sont tellement faibles que plus personne, aucun être humain ne peut les percevoir. Donc il n'y a pas réellement de goût minéral dans un vin, ça n'existe pas. Alors d'où vient cette idée puisqu'on l'utilise, donc il doit y avoir un sens quelque part. Alors la première idée que je vais proposer c'est que c'est une volonté de communiquer qui relève du marketing du vin. Lorsqu'on dit qu'un vin est minéral, on va décrire peut-être un vin qui est un peu artisanal, qui a un lien plus direct avec la terre, et du coup c'est plus authentique. On est un peu dans le syndrome du small is beautiful que nous connaissons tous, et autrement dit quelque chose pour initier seulement. Hein. C'est pas pour tout le monde, c'est seulement ceux qui vous savez. Alors, si on analyse les composants d'un vin, on estime que le potassium et le calcium sont les seuls qui existent dans un vin à plus de 1000 parts par million. Et à ce titre-là, ils ne sont pas détectables. Après, beaucoup de roches, la plupart des roches, ne sont pas solubles à l'eau. Donc le sous-sol ne peut pas passer dans le sol et donc ne peut pas passer dans les racines, même si les molécules étaient assez petites pour passer dans le système radicellaire, ce qu'elles ne sont pas, elles sont trop grosses. Donc la minéralité du vin, ça vient d'autre chose que les minéraux. Alors, ça vient d'où? J'ai une autre solution à proposer, c'est que ça vient surtout de l'acidité. Et surtout d'un effet de suggestion. Lorsqu'on décrit un chablis comme étant minéral, quelqu'un qui a vu ou qui a visité le vignoble de Chablis, ça crée sa fraîcheur climatique, peut très aisément concevoir que, ah oui, c'est minéral parce qu'il y a de la craie, ok? Donc c'est de la suggestion. En réalité, ce qu'on décrit là, c'est l'acidité du vin. Pareil pour les vins allemands de la Moselle. On est là, pas sur la craie, mais sur le schiste. Les roches sont à fleur de surface et lorsqu'on visite ces pentes très, très, très impressionnantes, parfois à 45 degrés, on dit, ah oui, c'est minéral parce qu'il n'y a rien qui pousse, donc ça doit avoir un goût de schiste. Mmh. Et si on n'a pas visité ce domaine-là, on n'aura pas l'idée. Il y a d'ailleurs deux scientifiques espagnols, l'un qui s'appelle Palacios, aucun rapport avec le vigneron ou les vignerons, et un autre qui s'appelle Molina, qui ont mené l'expérience suivante à l'Université de Barcelone. Ils ont sélectionné une série de vins que des experts avaient décrits comme étant minéraux. Ils les ont servis à l'aveugle à un autre groupe d'experts, pas les mêmes, en demandant de qualifier les vins. Les termes relevant du minéral sortaient de temps en temps, mais pas beaucoup. En revanche, quand ils ont découvert les vins et les gens les ont décrits, subitement, on avait cailloux, schisteux, crayeux, parce que les gens reconnaissaient les appellations et faisaient le lien. Donc, il y a beaucoup de suggestions dans cette affaire de minéralité. Alors, d'autres théoriciens estiment que c'est pas tant une affaire d'acidité, ou c'est peut-être une affaire d'acidité, mais c'est une affaire de réduction, ou c'est une affaire d'une présence de terpènes, voire du soufre dans le vin. Parce que le soufre, effectivement, le soufre est un minéral, et là, le soufre est présent dans des quantités beaucoup plus importantes dans un vin que le potassium ou le calcium ou n'importe quel autre minéral. Donc, le soufre réduit ou non, présence de terpènes, c'est-à-dire des molécules qui sont un peu végétales et qui durcissent par le soufre, donnent une impression de dureté tactile en bouche, ça peut être décrit comme minéral. Donc, je dirais que le minéral, c'est avant tout une affaire de suggestion, ensuite une affaire d'une perception d'autres saveurs qu'une saveur proprement minérale. D'ailleurs, qui a envie de bouffer des clous?
Bah, surtout pas un jour de Noël, quoi. Jacques-Olivier Pelletier, mais vous aimez les clous?
Non, en tous les cas, j'étais tout oui parce que, précisément, c'est un descripteur, la minéralité, que j'utilise jamais. Parce que j'écoutais ce que disait David, la forme d'ailleurs un peu interrogative, hein, sous la sémantique, voilà, pour traduire l'expression de ce qu'est-ce qu'un vin minéral. Bref.
Chistéral. Philippe Forbach, vous l'utilisez vous parfois, hein? J'ai entendu ça dans une excellente émission qui s'appelle In Vino BFM.
Ça peut arriver. Alors c'est vrai que David a raison, l'acidité renforce cette perception-là, dans cette dimension de fraîcheur qu'on associe en termes d'idée, hein, à quelque chose de minéral. Mais force est de constater que, on trouve dans certains vins des notes salines, par exemple, et le sel, c'est quand même une expression de la minéralité, que dans certains Bordeaux, on parle de notes de graphite, et le graphite, c'est aussi une pierre au départ, qu'on peut trouver sur certains vins des touches iodées, et que l'iode est associé effectivement à la minéralité, que le silex, la pierre à fusil, en tout cas, qu'on trouve dans certains vins, ça vient bien de quelque part, et quand on voit que le vignoble effectivement possède des silex, je pense à Pouilly Fumé par exemple.
Mais le problème, Philippe, c'est que le silex est absolument insoluble dans l'eau. Le silex est une pierre très très dure et ne peut pas se transmettre.
Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement on va retrouver pourtant ces notes de pierre à fusil.
Alors j'ai une autre suggestion, c'est que lorsqu'on compare un Sancerre qui Sauvignon Blanc à un Sauvignon Blanc de Nouvelle-Zélande, le Sauvignon Blanc de Nouvelle-Zélande n'est jamais décrit comme minéral parce qu'il a davantage de saveur fruitée. Donc c'est le fruit qui masque l'acidité. Les deux ont le même contenu acide.
Merci beaucoup David Cobold. Fin de ce numéro 626 d'Indie de BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas Paris, 31 Place de la Madeleine, dimanche à 15h. D'ici là, encore un joyeux Noël. Restez fidèles à BFM Business et surtout respectez la plus grande des modérations.